nos jeunes pour chanter. Eh bien, nous sommes de nouveau dans le livre de Josué. Et vous avez peut-être appris à connaître Josué et à apprécier un tel homme. C'est vrai que quand nous lisons ce livre, on se rend compte que c'est un homme avec de très très grandes forces. Mais de temps en temps, nous le trouvons faible. Hein? Alors, ce sont des personnes qui nous sont accessibles. Les personnes qui ont toujours raison et qui ont toujours beaucoup de force et nous dépassent tellement qu'elles nous se présentent comme des montagnes. Ce sont des Himalayas. Et vous dites, seuls quelques athlètes peuvent arriver au sommet. Mais la plupart, eh bien, restent au pied des montagnes et contemplent la majesté de la montagne, mais ne s'approchent pas trop parce qu'ils se disent jusqu'à une certaine hauteur, oui, au-delà, je n'ai pas la force. Mais Dieu nous présente ces hommes avec leurs faiblesses, justement pour que nous puissions comprendre que la force vient de lui. Et ceux qui se sont confiés en lui ont été forts. Et c'est vrai que Dieu ne cache pas, n'a pas caché leur faiblesse. Il a montré qu'ils n'étaient pas toujours à la hauteur et qu'ils n'ont pas fait toujours ce qu'il fallait. Mais la dernière fois, nous avons parlé de Caleb. Caleb est aussi une de ces montagnes, un de ces hommes que vous voyez se dresser majestueusement. Et vous dites quand même, il y a eu des hommes de ce genre dans l'humanité. Et c'est vrai que si vous examinez l'histoire de l'Église, eh bien, vous retrouvez des hommes tels que Caleb. Il y en a eu. Caleb est dans la Bible, c'est un personnage biblique. Mais dans notre monde, dans la période de l'Église, hein, depuis que l'Église existe, eh bien, il y a eu des hommes semblables à Caleb qui ont eu suffisamment de foi et d'audace pour demander à Dieu de grandes choses. Et ils les ont obtenues. Quand vous lisez certaines biographies, comment certains pays ont été évangélisés, combien les chrétiens se sont mobilisés pour faire certaines choses, et pour prier, pour intercéder, pour lutter, pour triompher, vous dites quand même, ça a été quelque chose. C'était des Caleb, des gens qui se sont levés et... Ce verset que j'ai à l'esprit, le Seigneur me l'a donné dimanche encore de nouveau, c'est dans Daniel au chapitre 2. Daniel chapitre 2, c'est le verset 21. Donc c'est au sujet de la fameuse statue. Hein. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Il y a des gens qui disent que tout est écrit d'avance. Eh bien, il semblerait que d'après ce verset que non. Et que par la prière, on peut changer des choses. Et il y a eu ces hommes, des Caleb, qui se sont levés et qui ont changé le cours de l'histoire, j'en suis persuadé, qui ont fait que, alors que le jugement était prêt à venir, eh bien, ils ont intercédé, lutté pour le peuple, et ils ont triomphé. Et le jugement s'est arrêté pour un temps. Ça ne veut pas dire que plus tard il n'est pas arrivé, mais pendant un temps, le jugement était suspendu. C'est comme dans l'histoire de Jonas. Donc vous avez de grands hommes de Dieu dans ce livre de Josué. Et vous avez aussi, il n'y a pas que des hommes, hein. Donc notre lecture la suivante, c'est au chapitre 15, le verset 13. « On donna à Caleb, fils de Jephunné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshai, Aïman, Talmaï, fils d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Kirjat Sefer, ça veut dire la ville des Écritures. Hein? Sefer en hébreu, c'est l'Écriture. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leur famille. Et là, vous avez dans cette histoire plusieurs choses intéressantes. D'abord, c'est Caleb a conquis hein, cette ville, Kiryat Sefer. Bon, c'est un mystère. Hein, quelles écritures? Pourquoi elle s'appelait la ville aux écritures? C'est peut-être un mystère qu'un jour on découvrira. Mais pour l'instant, je crois que l'archéologie n'a pas dit quelles écritures. C'est les gens savaient écrire en tout cas, puisqu'ils avaient nommé une ville la ville aux Écritures. Peut-être que c'était leurs archives, c'est là qu'étaient leurs archives, c'est peut-être là qu'il y avait les scribes. C'est voilà. Donc il faut pas aller trop loin dans tout ça. Mais Caleb a fait une promesse. Il a dit: Celui qui s'emparera de la ville, je lui donnerai ma fille. Hein, on croirait entendre quelque chose de connu. C'est dans certaines histoires pour les enfants, on dit voilà, c'est le prince qui voilà, il y a une jeune fille à épouser. Et le roi dit: celui qui fera ceci ou cela, eh bien, épousera ma fille. Ça veut dire qu'il sera prince. Ici, Othniel a eu l'audace de le faire. Il y est allé. Et il a pris cette fameuse ville. Alors, il semblerait qu'elle ne soit pas seulement une ville aux écritures, mais que ce soit aussi une ville fortifiée. Parce que s'il a été nécessaire qu'on fasse quelque chose de ce genre, et qu'il y ait une pareille promesse, c'est que la ville devait être fortement défendue et très difficile à prendre. Alors, voilà, je pense qu'il devait y avoir des choses précieuses. Comme les écritures, des écrits, hein, je sais pas, peut-être des tablettes qui étaient archivées là. Et la ville, comme il y avait des documents importants, elle était fortement défendue. Et alors, il a promis, et sa fille, eh bien, a épousé ce fameux Othniel. Mais la jeune fille a eu aussi l'audace de demander quelque chose. Et c'est là que l'on voit que les montagnes, comme je vous disais tout à l'heure, ne sont pas seulement des hommes. Il y a aussi des femmes qui ont eu l'audace de demander et d'obtenir. Et alors, elles n'ont pas, dans ce cas-là, cette femme n'a pas combattu. Il n'y a pas un combat. Mais ce qu'elle a demandé est très important. Elle répondit: Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre au Midi. Alors, au Midi, c'est le désert. Hein? On a traduit Midi, mais c'est le désert. Negev, en hébreu. Hein? Negev, c'est désert. Et alors, tu m'as donné une terre désertique. C'est pas un beau cadeau. Hein? Alors, donne-moi des sources d'eau, parce que j'ai rien pour arroser ton désert. Et alors, il lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Voilà. Il y a deux sortes de sources qui lui ont été données. Alors, dans un langage imagé, il y a les sources qui viennent d'en haut et les sources qui sont sur la terre. Et alors, c'est vrai que son désert, eh bien, il devait être à mi-hauteur des montagnes. Il devait y avoir des sources en haut et des sources plus bas. Et donc, il a donné de l'eau. Voilà. Dans ces régions, quand il y a un désert, l'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, on n'obtient rien. Hein. Et je peux vous dire, si nous n'avions pas d'eau, nous non plus ici, ça serait vite un désert. Hein. Et les gens se plaignent parfois de trop d'eau. Mais est-ce que je vous rappellerai que 2003, il y a des personnes qui disent: Ah, mais 2003, oui, l'été 2003, c'est la sécheresse. Il y a une grande sécheresse. Il y a beaucoup de morts. C'est en France. Hein. Ce n'est pas un pays de l'autre côté des mers, mais c'est en France même. Il y a eu, je ne sais plus, 20 000 ou 30 000 morts. Ça a été quelque chose de très important. On a minimisé beaucoup le drame, mais ça représente une mortalité très forte, hein. Et alors, c'est parce que la chaleur était insupportable. C'est les personnes âgées sont décédées très rapidement parce que les personnes âgées se déshydratent très vite et ne se rendent pas compte non plus qu'elles ont soif, hein. Les infirmières savent ça. Mais du point de vue spirituel, eh bien, nous sommes dans un désert. Autour de nous, c'est désertique. Vous cherchez des solutions, vous pouvez trouver des multitudes de solutions. Mais je ne connais pas de solution qui marche du point de vue humain. On peut entreprendre des multitudes de choses. J'ai eu l'occasion de faire des choses. Je peux vous dire, j'ai fait du porte-à-porte dans ma vie. En quelques mois, j'ai fait des milliers de portes. Je commençais à 7 heures du matin et je terminais à 9 heures, 10 heures du soir. C'est quand les gens, je voyais, ah oui, il y a quelqu'un là. Parce que voilà, il fallait faire des portes. Alors j'ai fait énormément et je n'ai vu personne venir à cela. On peut entreprendre des multitudes de choses avec nos forces humaines et avec les conseils humains et avec la pression humaine. Alors je dis rien contre le porte-à-porte, il y en a qui ont fait et qui ont bien réussi parce que c'était la volonté de Dieu de le faire, hein. Ce que je dis, c'est que quand c'est humain et que c'est charnel, alors c'est mauvais. Mais après, quand c'est Dieu lui-même qui dit va, frappe à la porte, alors allez-y, frappez à la porte, hein, parce qu'il vous le demande. Et s'il le demande, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais ici, elle a demandé des sources d'eau. Et nous, nous savons que du point de vue spirituel, les sources d'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est les fleuves d'eau vive. Alors, quand nous parlons de ce immense désert, hein, nous soupirons après que Dieu intervienne au milieu de ce monde de gens qui ne cherchent pas Dieu, de gens qui ne veulent pas même de Dieu, et qui ne se soucient pas de Dieu, qui ne s'inquiètent même pas qu'il y ait un Dieu. On leur dit il y a une vie éternelle, ils ne veulent même pas le savoir. On vous dit, ah oui, mais le prochain match, lequel? C'est tout de suite. Je connais des gens, ils sont incollables. Ils vont vous dire, oui, mais c'est l'équipe une telle qui a gagné. Il y a 2 ans, ils avaient fait tel match et ils ont été battus. Mais maintenant, ils ont une revanche à prendre. Ils savent tout. Ce sont des encyclopédies quant au sport, hein. Et je vois les gens dans le métro, ils ont l'équipe ouverte, journal. Je crois que c'est l'un des journaux les plus vendus en France, hein. C'est le journal du sport, hein. La politique, plus personne s'y intéresse. Maintenant, ils s'intéressent plutôt au sport. Mais c'est un désert. Parce que les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils ne veulent plus se soucier qu'il y a un Dieu et qu'il y a une vie éternelle et qu'un jour, il y a un jugement. Il y a un jugement? Mais non, vous rêvez. Ce sont des choses que l'on racontait dans le passé aux petits-enfants. Mais maintenant, les enfants, ils ont des jeux vidéo, ils ont autre chose à penser qu'à s'inquiéter qu'il y a un enfer et qu'il y a un jugement de Dieu et que toutes ces choses doivent passer et qu'il y a une vie éternelle. Donc, c'est un désert. Et c'est pour cela que nous devons chercher les sources d'eau. Parce que si nous n'apportons pas de sources d'eau, si nous n'apportons pas l'eau vive, si nous n'apportons pas une vie, une vraie vie, eh bien les choses resteront telles qu'elles sont. Et ce que je remarque, c'est que c'est à cette femme qui a demandé et elle a obtenu. Je peux vous dire, dans l'histoire de l'Église, le nombre de fois où des femmes ont imploré, ont prié, ont demandé vraiment. Ce qu'il y a, c'est que le texte que nous avons ici mériterait une meilleure traduction. Parce qu'il semble qu'elle s'est concertée, elle a réfléchi à la chose, elle s'est dit, il me faut des sources d'eau. Il y a une délibération intérieure. Et elle a obtenu les sources d'eau. Et c'est comme cela que certaines chrétiennes se sont mises à genoux et ont demandé à Dieu d'intervenir. Et c'est comme cela que vous dites, oui, mais il y a eu un réveil à tel endroit, parce que le prédicateur était un bon prédicateur. Oui, mais le prédicateur ne serait pas un si grand prédicateur s'il n'y avait pas eu ces femmes qui avaient prié derrière. Ne négligez jamais ce ministère extraordinaire qu'est la prière. La prière soulève les montagnes, change les temps et les circonstances. C'est ce qui est dit hein, dans Daniel. Je vous ai lu tout à l'heure le verset. La prière change les temps et les circonstances. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Du point de vue humain, nous pouvons regarder autour de nous. Ce que nous voyons, ce n'est qu'une apparence. C'est l'apparence des choses. C'est ce que ce monde veut bien nous montrer. Mais il y a une réalité. C'est qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a l'intervention de Dieu. Dieu reste quand même le Tout-Puissant. Même si le monde est très endurci, même s'il est indifférent, même s'il a il est captivé par des sujets d'intérêt qui sont fascinants. C'est vrai, c'est fascinant. Vous vous mettez devant votre poste de télévision, vous avez un bon film, ça vous secoue, hein, vous avez vraiment, c'est difficile de faire autre chose. Et en plus, si vous mettez un enfant devant, alors là, il est branché, hein, il est captivé. Hein. Mais tout ça paraît insurmontable. Mais je peux vous dire, par la prière, par l'intercession, c'est possible. Les choses peuvent changer. Je me rappelle c'est un épisode de la vie de Ruben Torre. Je ne prononce pas comme il faut. Hein. Les Américains vont me dire que je ne prononce pas comme il faut. Mais bon, ce n'est pas pour une prononciation. Vous connaissez le personnage. Mais cet homme, un jour, avait prêché. Et deux Australiens sont arrivés. Et lui ont dit, Monsieur Torre, vous êtes l'homme que nous cherchons pour faire une grande campagne d'évangélisation en Australie. Alors lui était en Californie, à Los Angeles, parce qu'il avait une église à Los Angeles et même directeur d'un institut biblique. Et alors il a dit, Monsieur, c'est impossible. Mon temps ne me le permet pas. Et vous savez ce qu'ils ont répondu. On vous y amènera par la prière. Quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, Ruben Torre était en Australie et prêchait l'évangile. Et on pense que sa prédication au travers de toute l'Australie a été l'occasion du salut de 200 000 personnes. Par la prière, on vous y amènera. Cette femme-là a osé demander des sources d'eau. Et nous, est-ce que nous avons l'audace de demander le Saint-Esprit? La puissance de l'Esprit de Dieu pour que les choses soient changées, pour que les temps et les circonstances soient changés et que nous voyons les choses différentes de ce qu'elles paraissent. Et je peux vous dire, c'est possible, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas ma parole. Vous n'avez pas besoin de vous confier dans ce que je dis, mais confiez-vous dans ce que dit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne clairement que ce que l'on demande, on le reçoit. Mais quand on le demande, vraiment. Quand on le veut, vraiment. Et quand on est déterminé à l'obtenir jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, on l'obtiendra. Et c'est ces personnes qui se disent, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Et ils sont prêts même à en supporter les conséquences. Hein. Et Jacob, qui a prononcé cette parole, était infirme pour le restant de ses jours. Mais qu'importe d'être infirme, si nous avons la bénédiction de Dieu, qu'importe. Qu'importe nos faiblesses physiques, si nos handicaps, nos ceci et nos cela, si Dieu doit être glorifié, si l'Évangile doit être annoncé, si les âmes sont sauvées, si des pécheurs passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je peux vous dire, ça vaut la peine, ça vaut des souffrances, ça vaut des peines. Vous savez, nous sommes beaucoup plus résistants que nous le pensons. La plupart des chrétiens disent « Oui, mais vous savez, moi si j'ai prié 10 minutes, si j'ai prié un quart d'heure, je peux vous dire que l'on peut prier bien davantage. Si vous avez du temps, vous pouvez prier bien davantage. Et vous pouvez même aller jusqu'à jeûner pour obtenir et aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes capables de plus que ça. Notre corps est beaucoup plus résistant. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que nous avons l'ennemi qui vient nous dire « Oui, mais tu n'y arriveras pas. Mais c'est vrai que les autres, oui. Un tel, oui. Mais toi ?» Et je peux vous dire, c'est difficile pour tout le monde. J'avais un ami qui s'appelait Pierre Pité. Il est décédé, il est avec le Seigneur depuis bien, bien longtemps. Hein. Je pense plus de 40 ans même. Mais c'était un ami. Je l'ai rencontré 2-3 fois. Hein, mais tout de suite, on est devenus des amis. Et moi, j'étais très timoré parce qu'on m'avait dit tellement de choses négatives que que j'étais j'avais pas beaucoup de confiance en moi-même. Et lui, il m'a dit, tu sais, c'est difficile pour moi aussi. Il m'a pas dit grand-chose, hein. Il m'a dit, c'est difficile pour moi aussi. C'est alors que tout le monde croyait que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose, il devait lutter. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Il y a des forces antagonistes. Il y a des forces qui luttent contre les nôtres. Satan ne veut pas le salut des âmes. Satan est acharné pour détruire ce monde. Si je peux vous dire, quand on tourne les regards, on voit des choses qui nous scandalisent. Je peux vous dire, j'étais dans le métro, je ne vais même pas dire ce que j'ai vu. Mais j'étais scandalisé au plus haut point. Parce que j'ai vu des choses qui m'ont profondément troublé. Je me suis dit, c'est impossible. Comment des choses peuvent se faire devant tout le monde? J'étais fortement scandalisé. Mais Dieu est plus puissant que ça. Satan essaye de nous impressionner, de nous montrer que nous sommes. Vous vous rendez compte au point où ça en est rendu, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Oui, nous y arriverons par la puissance de Dieu, par la foi, en nous confiant en lui. Si nous demandons les sources supérieures et les sources inférieures, on ne se contente pas de seulement celles qui sont supérieures, on veut les autres aussi. Alors, je ne peux pas vous dire quelles sont les autres, hein, mais s'il y a des sources, on les veut, et on les veut toutes. On veut être rempli complètement, on veut avoir la puissance de Dieu, on veut vraiment que Dieu intervienne et qu'il agisse. Parce que si nous ne le voulons pas vraiment, eh bien nous n'obtiendrons rien. Et une génération passe, et une autre génération suit, et qui passera aussi, et qui sera suivie d'une autre génération, si elle n'a pas plus d'énergie que nous, eh bien, le monde peut continuer à s'enfoncer dans la débauche, dans le péché, dans l'immoralité et dans le. Et plaignez-vous qu'il y ait des voleurs et qu'il y ait ceci et cela. C'est parce que nous, chrétiens, nous ne prions pas pour le monde perdu. Nous n'intercédons pas pour eux. Nous ne les aimons pas vraiment. Alors que le Seigneur Jésus les a aimés au point de donner sa vie pour eux. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est un combat. Mais le combat du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous était bien plus dur que ça. Et dans ce combat, il a gagné notre combat. Et c'est vrai que nous avons une participation à ses souffrances. Nous avons une participation à ce combat. Et c'est normal que l'Église, qui est son épouse, Dieu a dit, et c'est le Seigneur Jésus l'a dit que c'était son épouse, que l'épouse ait les mêmes combats et les mêmes souffrances, les mêmes tensions que celui qui est son fiancé. Son futur époux. C'est quelque chose, vous savez. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas étrange ce que je dis. Ici, nous avons une femme qui nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne qu'il faut demander. Et il faut prendre le temps de penser à ce qu'on va demander. Et de dire, maintenant, je vais le demander. Et je le demanderai et j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je peux vous dire, il est arrivé une fois où j'ai prié pour quelqu'un qui allait très mal. Et cette personne, elle allait faire une grosse bêtise. Hein. Et alors, j'ai prié intensément. Et elle n'a pas fait la bêtise. Alors, je me suis réjoui et je lui ai dit, j'ai prié pour toi, pour que tu ne fasses pas cette bêtise. Je n'ai pas vu la joie sur son visage. Hein. Elle s'est dit, voilà pourquoi ça n'allait pas. Elle a recommencé la même bêtise. J'ai prié, j'ai rien obtenu. Elle a triomphé. Parce qu'elle avait décidé que là, elle irait jusqu'au bout dans sa débauche et dans son péché. Et elle y est tombée. Et aujourd'hui, elle est plus bas que vous pouvez imaginer. C'est vrai, il y a des combats, il y a des luttes. Mais nous avons la victoire. On peut empêcher même quelqu'un. Après, la personne a son libre arbitre et elle peut dire non, c'est un non définitif. Il n'y aura pas d'autre solution. Alors cette personne-là, Dieu lui-même ne peut rien faire pour elle. Elle a choisi, elle a fait son choix. Tandis qu'il y a des personnes qui se laissent troubler, qui écoutent, qui se laissent interpeller, qui reviennent, qui se remettent en question. Nous sommes devant un monde qui n'est pas, qui est incrédule parce qu'il ne le sait pas. Il ne connaît pas. On l'a trompé. Ce ne sont pas des gens qui sont endurcis dans le péché. Et il y en a qui sont endurcis. Mais la plupart des Parisiens que vous voyez autour de vous souffrent au fond d'eux-mêmes. Et ils aspirent à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, je peux vous dire, c'est nous qui l'avons. Parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce que les gens attendent, c'est l'Évangile. Mais ils n'attendent pas une théorie. Ils n'attendent pas des leçons sur l'Évangile. Ils veulent une nouvelle vie. Et ils veulent que nous leur présentions une nouvelle vie. Et ce que nous leur montrions, qu'en nous, il y a cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas, ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alors je peux vous dire, nous allons faire exactement les mêmes choses que le monde. On va aimer les matchs de foot, on va vibrer pour un match de rugby, on va être, c'est ce qui était dit sur une affiche, hein, je fais que répéter, 80 secondes pour vibrer. Et puis vous allez penser que si vous ferez exactement les mêmes choses. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être différent. Et il faut assumer votre différence. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu. Dieu vous appelle ses enfants. Vous êtes différent, que vous le vouliez ou non. Parce que vous êtes passé par la nouvelle naissance. Vous êtes de la famille de Dieu. Et les gens doivent voir dans votre vie quelque chose de différent, quelque chose de joyeux, quelque chose de rayonnant. Parce que Dieu a mis en vous son Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Toutes ces choses, elles vous sont données, vous les avez, vous les possédez. Et il faut les manifester. Et c'est ce que ce monde cherche. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière soupire. Elle attend que nous soyons les chrétiens que nous devons être. C'est pour cela que je vous dis, vous avez hérité d'un désert ? Très bien, mais ce désert ne peut pas rester un désert. Il faut que ça devienne aussi un lieu, un paradis, que vous sachiez l'arroser par les sources d'en haut et les sources d'en bas, et qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui soit transformé. C'est entre un désert et un paradis, je peux vous dire, la différence est phénoménale. Il n'y a aucune point de ressemblance. C'est possible. Je peux vous le dire, à condition que nous ayons cette foi qui est audacieuse et qui demande jusqu'à obtenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil. Excusez-moi l'expression. Je ne veux pas vous dire des choses qui sont forcément agréables. Mais ce que je vous dis, c'est que nous avons, nous chrétiens, des devoirs. Et nous devons les assumer. Nous pouvons vivoter notre vie chrétienne, mais nous pouvons aussi avoir une vie chrétienne qui est selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et cette vie chrétienne, je peux vous dire, elle dépasse ce que vous pouvez imaginer. C'est quelque chose d'immense, et c'est merveilleux. C'est extraordinaire de marcher conduit par l'Esprit, d'entendre la voix, cette petite voix au fond de vous-même qui vous dit « Va, c'est le chemin, parle, tais-toi, avance dans cette direction-là. » Vous lisez la parole de Dieu et vous entendez « Ah oui, c'est vrai, Dieu me parle, Dieu me dit quelque chose. » Et c'est quelque chose, c'est une vie conduite par l'Esprit. Et c'est au-delà de toute imagination humaine. Ce monde ne connaît pas tout ça. Et la plupart des chrétiens passent à côté de leurs privilèges et de tout ce que Dieu leur a donné pour vivre selon le monde. Jouer avec le monde, jouer comme s'ils étaient du monde, alors que nous ne le sommes pas. Et nous avons une immense responsabilité. Nous allons prier. Ô notre Dieu, combien nous te demandons de vraiment intervenir dans nos vies. Tu sais, Seigneur, combien nous sommes petits et faibles. Tu sais combien nous sommes méprisés. Mais Seigneur, ce n'est pas nous qui, c'est pas sur nous que les gens doivent porter les regards, mais c'est sur toi. Ô notre Dieu, nous voulons te demander pardon, Seigneur, d'être un sujet de tristesse, Seigneur, et que ce monde ne te connaît pas parce que nous sommes trop timides, trop tièdes. Nous n'avons pas l'audace d'avancer dans le bon chemin, de choisir les choses éternelles, les choses vivantes, les choses qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Ô notre Dieu, nous voulons te prier pour que tu interviennes, pour que tu nous remplisses de la sagesse d'en haut, que vraiment nous sachions choisir ce que toi tu aimes, ce que toi tu désires pour nous, que vraiment nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, que nous soyons vraiment renouvelés dans l'homme intérieur, que vraiment tu sois glorifié en toutes choses. Nous ne voulons pas te demander quoi que ce soit, Seigneur, pour être meilleur que les autres. Nous voulons simplement être agréable à toi, faire ce qui t'est agréable pour te glorifier entièrement, pour que toi tu sois connu, pour que toi tu sois vu, pour que ton Église soit glorieuse, pour que ton Église triomphe dans ce monde perdu. Ô notre Dieu, nous remettons tout entre tes mains et nous te rendons grâce d'exaucer nos prières. Nous te louons, Seigneur, parce que tu fais toutes choses à merveille. Gloire et louange à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.